Le magazine des Nations Unies.
Octobre 1945, 24 octobre 2020, exactement 75 ans depuis la création de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Cet anniversaire est célébré dans le monde dans un contexte caractérisé par de nombreux bouleversements, dont la crise sanitaire de coronavirus. Pour la chef de la MONUSCO, quelles que soient ses faiblesses, l'ONU aura joué un rôle dans les relations internationales et au sein des États membres, dont la RDC. Leila Zerougui est l'invitée de ce magazine. La parole à 50 millions de femmes africaines, c'est un projet dans lequel sont impliqués le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, la communauté est-africaine EAC et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO. Le projet est financé par la Banque africaine de développement BAD et jeudi dernier à Kinshasa, la ministre du genre Béatrice Lomé l'a lancé pour la RDC. Et puis ce plaidoyer du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF à Lubumbashi pour l'amélioration des conditions de vie des enfants de la province du Haut-Katanga, un plaidoyer fait à l'Assemblée provinciale pour que cette dernière alloue un budget conséquent aux besoins de l'enfance. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à ce magazine présenté par Belinda Bosuma. L'ONU a accompli ce 24 octobre, jour pour jour, ses 75 ans d'âge, un âge d'accomplissement selon Mme Leila Zerougui, qui estime que cette organisation mondiale a joué un rôle primordial dans les relations interétatiques et intraétatiques et que si les Nations Unies n'étaient pas revenues au Congo à la suite des guerres des années 90, la RDC n'aurait pas retrouvé son unité et son intégrité territoriale héritée à son indépendance. À l'occasion de l'anniversaire de l'ONU, la chef de la MONUSCO est l'invitée de ce magazine. Je vous propose un extrait de son allocution sur la présence des Nations Unies en RDC, propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
La République démocratique du Congo, les Nations Unies ne se sont pas invitées tout seules. Les Nations Unies sont arrivées parce qu'il y avait des crises. La crise de l'indépendance, qui a été quand même une crise extrêmement grave. Un secrétaire général laisse la vie, un premier ministre, le premier du Congo, laisse la vie. Donc c'était une situation dramatique pour un pays qui venait juste d'acquérir son indépendance après une colonisation longue et aussi douloureuse. Ça a été un premier contact. La situation s'est calmée par la suite. Les Nations Unies ont quitté le Congo. Et puis, ils sont revenus, bien sûr, avec la crise des années 90, avec tout ce qui s'est passé. Donc, quand la MONUC est arrivée, le Congo était quand même divisé en quatre pays. Je me rappelle, les gens qui étaient là me racontaient que pour pouvoir aller de Kinshasa à Goma, c'est comme si on demandait un visa. Sinon, si vous essayez d'atterrir sans être autorisé par le groupe armé qui contrôle cette zone, eh ben, vous pouvez être abattu. Donc, c'était quand même une situation extrêmement grave. Les Nations Unies sont arrivées, ils ont essayé de tourner cette page. Tout un travail qui a été fait, Saint-City, ça a été le début de la stabilisation. C'est un processus. Les Nations Unies ont préservé d'abord l'unité du pays. Le Congo est resté dans ses frontières héritées de la colonisation. Ça, il faut jamais l'oublier.
La bataille pour l'indépendance économique se fera avec les femmes. Déclaration de la ministre d'État et ministre du genre, famille et enfants, jeudi à Kinshasa. C'était à l'occasion du lancement à RDC du projet 50 millions de femmes africaines ont la parole, un projet des trois zones économiques d'Afrique financé par la Banque africaine de développement BAD. Écoutez à ce sujet Madame Béatrice Lomé à Tilité, dans ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Les femmes congolaises ne dorment pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes derrière là. Si vous avez effectivement soulevé le fait qu'à 1960, c'était l'indépendance politique. À la table ronde où nous n'avons pas remarqué la présence des femmes, la bataille pour l'indépendance économique se fera avec les femmes. Et à ce sujet, permettez-moi de présenter mes hommages les plus déférents à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, dans sa vision, exprimé le soutien total à l'épanouissement de la femme entrepreneur. En effet, les femmes congolaises 52% de la population, et spécialement les femmes entrepreneurs, auxquelles s'ajoutent les femmes rurales, constitue un levier incontournable de l'économie nationale et du développement du pays, ainsi que la lutte contre la pauvreté et la résilience au changement climatique.
Retenez que le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole consiste en la connexion des femmes entrepreneurs du continent en réseau pour leur autonomisation. Il est porté par le COMESA, la CDAO et la communauté économique est-africaine EAC. Quittons Kinshasa pour Lubumbashi. L'UNICEF plaide pour l'amélioration des conditions de vie des enfants tout naturellement. Mardi dernier, la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi a été à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour demander à cette institution d'allouer un budget conséquent au secteur de l'enfance. Les détails de ce plaidoyer avec Jean Gandou.
Au cours de cette plénière, les enfants parlementaires et membres du comité des enfants du Haut-Katanga ont présenté les difficultés auxquelles ils font face. C'est entre autres l'accès difficile à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation, et la plupart ne sont pas enregistrés à l'état civil. En outre, ils ont aussi épinglé le fait que les jeunes filles sont souvent victimes de violences sexuelles. Pour cela, ils ont sollicité que des réponses idoines soient accordées à ces préoccupations. Pour la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi, les enfants représentent plus de la moitié de la population du Haut-Katanga. Ils doivent donc accéder à leurs droits, dont les droits d'être nourris, d'être éduqués, de s'épanouir, d'accéder à l'eau et à un assainissement durable. Parlant de l'éducation, Kadiatou Diallo a fait entre autres les plaidoyers suivants.
Accroître les allocations budgétaires à l'éducation de 16% actuellement à 20%. Ce qui permettra, je pense, au Katanga d'assurer qu'aucun enfant ne soit en dehors de l'école alors qu'il devrait être à l'école.
Enfin, elle a émis le vœu de voir le gouvernement construire de nouvelles salles de classe pour résorber les surplus des nouveaux élèves qui sont les fruits de la gratuité de l'enseignement primaire. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'ONU a lancé en ce mois d'octobre une campagne appelée « Marquons la pause ». C'est pour combattre la désinformation sur les réseaux sociaux concernant particulièrement la pandémie à coronavirus. Selon le directeur du Centre d'information des Nations Unies basé à Dakar au Sénégal, Damian Cardona, ce phénomène des fake news n'épargne aucun continent ni aucune culture. Suivez plutôt l'entretien que Damian Cardona a eu au téléphone avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Damian Cardona, bonjour.
Bonjour,
Kinshasa. L'ONU s'est lancée dans la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux connus sous le nom de fake news à travers sa campagne appelée « Marquons une pause ». Quelle est sa motivation en lançant cette campagne?
Tout d'abord, merci pour votre appel et pour votre intérêt. Bien sûr, l'ONU avait commencé il y a quelques mois la campagne « Vérifier », que c'était une campagne pour lutter contre les infox, contre les fake news. Et désormais, depuis ce mois-ci, ils ont commencé une deuxième phase de la même campagne qui s'appelle « Pause ». Ça veut dire, l'idée principale, c'est de demander aux gens, aux jeunes et aussi à les autres, de, avant de partager une information, une vidéo, qu'on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas, faire une pause, réfléchir, dire « Est-ce que ça vaut la peine que je continue avec la diffusion de quelque chose qui n'est pas vrai, qui peut faire du mal ?» qui peut créer des problèmes. Alors, faire une pause avant de décider à continuer une chaîne de mauvaises informations, de l'infox ou de fake news, comme on dit en anglais.
Alors, quel type de danger les pays en voie de développement s'exposent-ils à la désinformation sur les réseaux sociaux?
Écoutez, le même que les pays en développement, les pays développés, c'est la même chose. L'humanité tout entière est en face d'une pandémie d'une magnitude qu'on n'a jamais connue. Alors, tous les pays voient que ces infox, ces mauvaises informations, peuvent arriver à avoir des effets très dangereux. Des jeunes, même des enfants, peuvent prendre des attitudes d'une façon complètement irresponsable. Les gens peuvent perdre l'espoir à des solutions, ne pas vouloir même continuer avec la pandémie. Il y a même des négationnistes, comme il y a des négationnistes de l'Holocauste ou du racisme. Il y a des gens qui disent que cette pandémie n'existe pas et qu'alors il ne faut pas prendre aucune mesure. Alors comme j'ai dit, je pense que les dangers sont vraiment pour tout le monde.
Donc cette campagne concerne essentiellement la crise de la pandémie à coronavirus.
Absolument, absolument. Oui, oui. C'est la campagne Vérifie a commencé le mois de mai et la campagne Pause, qui fait partie aussi de la campagne Vérifie, commence le mois d'octobre et tout est venu à cause de la pandémie.
Alors, pensez-vous qu'avec leur politique de communication sur la montée du phénomène des réseaux sociaux et ses corollaires, les pays africains sont-ils préparés à faire face aux dangers de consommation des fake news?
On n'est jamais assez préparé, surtout les jeunes, les enfants. Moi, j'ai trois enfants. Je le vois toujours qui vient chez moi. Papa, papa, regarde cette vidéo. Et on voit que c'est la manipulation. Alors, je pense qu'on n'est jamais assez préparé. Mais je pense que tous les efforts qui se font dans la ligne d'essayer d'informer avec rigueur aux gens de ça qui c'est possible, ça qui c'est pas possible, ça qui c'est bien fait, ça qui c'est ça pas bien fait, avoir des données, je pense que tout ça c'est énormément important. Les Nations Unies vont continuer à le faire, la OMS, dans ses bureaux régionaux de Libreville, travaille énormément. Nous-mêmes, au niveau du département de la communication globale des Nations Unies, on a fait depuis le mois d'avril des vidéos sur les portes de masques, sur les infox. On les a fait en français et en plus de 10 langues nationales. Lingala, Bambara, Peul, Wolof, Kirundi. Ils ont été diffusés un peu partout précisément pour arriver à tout le monde dans leur propre langue.
Tout cela fait partie des solutions que l'ONU propose pour accompagner les États africains dans ce combat de fake news.
Exactement. Les États africains et les États de partout dans le monde. Parce que comme je dis, c'est pour la première fois. Ça, c'est comme le changement climatique. C'est un problème qui ne connaît pas les frontières. L'Afrique, par contre, nous a donné la surprise un peu que la réaction et l'impact a été énormément plus faible de ça qu'on pensait il y a quelques mois. Mais comme je dis, et vous dites aussi, cette désinformation affecte, je dirais, que la population tout entière dans tous les continents et même dans tous les niveaux sociaux, des niveaux d'éducation, parce que les infox, les fake news ont devenu très très sophistiqués. Et maintenant, on voit des vidéos qu'on dirait qu'ils sont vrais. Et c'est parfois de la intoxication.
Alors, marquons une pause. Monsieur Damien Cordona vise quel public, quel type d'audience?
Oui, cette campagne, comme c'est une campagne de l'ONU, utilise beaucoup de moyens. On utilise bien sûr les réseaux sociaux, le même où les infox se trouvent, et tous les réseaux sociaux, ça veut dire Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, WhatsApp, enfin tout. Tous les réseaux sociaux sont là, mais aussi les sites web d'information générale, les médias. Ça veut dire on essaye vraiment d'arriver au plus part de la population et à toutes les audiences. C'est vrai que en général, les réseaux sociaux ont une incidence plus forte entre les populations plus jeunes. Et l'Afrique étant un pays jeune, spécialement jeune, c'est peut-être le public, je dirais, entre le 14 et le 30 ans, peut-être les premiers ciblés. Mais ça va bien au-delà, hein, tous les âges et toutes les audiences confondues.
Marquons une pause, c'est une campagne de l'ONU. Alors comment un média onusien comme Radio Capi ici en RDC peut collaborer ou contribuer à la réussite de cette campagne?
Écoutez, j'ai la chance de connaître et d'avoir écouté Radio Capi depuis presque 20 ans. Et ça a été toujours un modèle, et une fierté pour nous tous. Bon, une radio que malgré les difficultés, même étant une radio institutionnelle, parce que c'est des Nations Unies, a eu toujours un prestige, a eu toujours une crédibilité très importante, en RDC et partout dans l'Afrique, je dirais, parce qu'elle est écoutée par des diasporas, mais aussi par des gens intéressés à ce qui se passe en RDC. Alors, la Radio Capi, comme un média crédible, peut servir comme un partenaire très important, parce que les radios aussi, peut-être avant j'ai oublié de les mentionner comme des partenaires, il y a maintenant un lien total, ça veut dire la Radio Capi il y a 20 ans n'avait pas de lien avec les réseaux sociaux, maintenant la Radio Capi est digitale, la Radio Capi est écoutée avec des smartphones, alors vraiment une radio crédible et prestigieuse comme Radio Capi doit être un partenaire très grand de ces campagnes de vérité des Nations Unies.
Puisque vous avez l'occasion de vous adresser aux auditeurs et aux auditrices de cette radio, quel message maintenant là vous pouvez adresser à la jeunesse africaine, à la jeunesse congolaise par rapport au phénomène fake news?
Oui, moi je pense que cette campagne de pause est énormément importante. Nous tous, on regarde tout le temps d'informations dans tous les réseaux sociaux, mais on voit parfois, on dit, ah, c'est quoi ça? Vraiment, ça n'a pas de sens. Alors, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir un esprit critique. parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Les réseaux sociaux ont fait des choses magnifiques, ils ont relié le monde, ils ont fait trouver des amis, ils ont fait énormément de belles choses. Mais en même temps, ils sont aussi tellement puissants qu'ils peuvent passer comme ça, tellement vite, des infox, des fake news. Alors, je pense que la jeunesse, la société congolaise, quand elle voit des informations, il faut toujours vérifier. Il faut toujours contraster, chercher une autre qui valide ça que la première source nous a dit. Alors il faut cette pause, il faut prendre un tout petit peu de temps, pas beaucoup, mais un peu de temps, avant d'une façon un peu rapide et responsable de partager des informations, avoir le temps de dire, ça je ne suis pas sûr. Laisse-moi réfléchir un moment et je l'envoie un peu plus tard quand je suis sûr que je vais partager ça à mes amis, à mes collègues, à mes proches, en sachant que c'est de l'information crédible.
Damien Cardona, merci.
Merci à vous. C'est vraiment un plaisir d'être sur les ondes de Radio Capi.
En plus bref, allons d'abord à Irum ou dans l'Ituri, où les casques bleus bangladais et népalais de la MONUSCO sont intervenus pour débloquer la route que des miliciens de la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC, avaient bloquée en plaçant des barricades. Les soldats de la paix ont dominé la zone et escorté vers Bunia la quarantaine des véhicules bloqués à la suite de cet incident. Autre action des casques bleus de la mission onusienne, c'est celle du contingent indien qui, en patrouille la semaine dernière à Pinga dans le Nord Kivu, sont intervenus pour réparer une conduite d'eau afin de faciliter l'accès à l'eau à la population de cette région. Affaire meurtre des experts de l'ONU dans le Kasaï, le procès des présumés meurtriers a repris mardi devant la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Ce procès a été suspendu depuis mars dernier à la suite de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire avec la crise de la maladie à coronavirus. L'audience de ce jour a été marquée par la demande de la comparution comme renseignant du chef milicien Trésor Mputu.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé dans le sommaire, Mme Leila Zerougui a accordé une interview exclusive à Radio Okapi à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'ONU. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Madame la représentante spéciale, bonjour.
Bonjour.
Les Nations Unies fêtent ce 24 octobre leur 75e anniversaire. Quel regard succinct portez-vous sur les 75 ans de l'ONU en ce moment où la planète est en proie à plusieurs bouleversements aggravés d'ailleurs par une crise sanitaire sans précédent?
Merci beaucoup. 75 ans, c'est l'accomplissement de l'âge d'une personne, c'est les trois quarts d'un siècle, donc c'est important que notre organisation ait passé toute cette étape, ces années, et elle continue à être là et à essayer de faire ce qui lui a été attribué. Comme vous le savez, l'Organisation des Nations Unies est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une décision, un choix qui a été fait par les belligérants qui ont gagné la guerre, qui se sont divisés en deux camps. C'était l'époque de la guerre froide jusqu'aux années 90, de créer une organisation, de lui donner suffisamment d'espace pour qu'elle ne soit pas balayée, comme ce fut le cas pour la Ligue des Nations qui a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a été balayée avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans ce contexte de division, de blocs importants, les Nations Unies ont été justement investies de pouvoir et d'espace pour éviter de sombrer dans une troisième guerre mondiale, pour essayer de régler les problèmes par la négociation dans un espace multilatéral où tout le monde est représenté, petit et grand, même si dans cet espace, les grands se sont attribués certains pouvoirs pour assurer le contrôle de l'évolution des situations dans le monde.
Oui, madame, si on peut parler un peu des relations entre la RDC et l'ONU, il y a une longue histoire de l'ONU aux premières heures de l'indépendance, à la MONUSCO aujourd'hui, en passant par la MONUC. Quel est le dénominateur commun de ces différents moments de la présence des Nations Unies en République démocratique du Congo, madame?
La République démocratique du Congo, les Nations Unies ne se sont pas invitées tout seules, les Nations Unies sont arrivées parce qu'il y avait des crises. La crise de l'indépendance, qui a été quand même une crise extrêmement grave. Un secrétaire général laisse la vie, un premier ministre, le premier du Congo laisse la vie. Donc c'était une situation dramatique pour un pays qui venait juste d'acquérir son indépendance après une colonisation longue et aussi douloureuse. Ça a été un premier contact. La situation s'est calmée par la suite. Les Nations Unies ont quitté le Congo. Et puis, ils sont revenus, bien sûr, avec la crise des années 90, avec tout ce qui s'est passé. Donc, quand la MONUC est arrivée, le Congo était quand même divisé en quatre pays. Je me rappelle, les gens qui étaient là me racontaient que pour pouvoir aller de Kinshasa à Goma, c'est comme si on demandait un visa. Sinon, si vous essayez d'atterrir sans être autorisé par le groupe armé qui contrôle cette zone, eh ben, vous pouvez être abattu. Donc, c'était quand même une situation extrêmement grave. Les Nations Unies sont arrivées, ils ont essayé de tourner cette page. Tout un travail qui a été fait, Saint-City, ça a été le début de la stabilisation. C'est un processus. Les Nations Unies ont préservé d'abord l'unité du pays. Le Congo est resté dans ses frontières héritées de la colonisation. Ça, il faut jamais l'oublier.
Donc, la représentante spéciale pense qu'en 21 ans de présence continue en RDC, les Nations Unies ont aidé la République démocratique du Congo à avancer dans le cadre de la démocratie et des droits de l'homme.
Moi, je suis convaincue, et je ne fais pas de la démagogie, je suis convaincue que s'il n'y avait pas eu cette présence, le Congo, je ne suis pas sûre qu'il serait ses frontières héritées de la colonisation. Les Nations Unies qui ont donné cet espace à la société civile, elle n'existe pas dans d'autres pays, ces espaces où la société civile est consultée surtout. Elle intervient, elle s'organise. On peut être d'accord ou ne pas d'accord avec l'un ou l'autre, ça c'est pas le problème. Rappelez-vous, vous manifestez juste avant 2018, vous pouvez laisser votre peau. Aujourd'hui les gens y manifestent. Même s'il y a de temps en temps un incident, même s'il y a quelqu'un qui est tué. Mais ce n'est pas choquant, parce que les gens se sont habitués.
75 ans, c'est un âge d'accomplissement, vous l'avez dit, madame, à l'ouverture de cet entretien. Mais pour le fonctionnement de l'ONU, plusieurs voix s'élèvent pour exiger des réformes de notre organisation mondiale. Quelle lecture la représentante spéciale Leïla Zerougui s'est fait de cette exigence en tant que fonctionnaire international de cette institution et surtout en tant qu'africaine?
C'est surtout la réforme du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est né, comme j'ai dit, des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui voulaient garder le contrôle de la situation dans le monde. Ils se sont octroyés ce pouvoir qu'on appelle le veto. C'est-à-dire, si moi je suis pas content, vous pouvez les 14 voter, moi je suis un, je dis non, j'utilise mon veto et tout tombe. Ça, c'était quelque chose qui a été mis en place pour les 5 qui avaient ce pouvoir. Il y a aussi la représentation géographique de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Europe. Donc voilà, cette réalité, elle est là, elle est évidente. Maintenant, réformer, comment on réforme? Est-ce que vous pensez que les gens qui ont le veto vont dire, allez, on renonce au veto et on vous laisse la réforme, vous venez, on va avoir les mêmes voix, on va être d'accord et on va travailler ensemble. En 2008, Kofi Annan avait tenté ça, il y a eu tout un débat, et tout ça est tombé à l'eau, ça n'a pas marché. Moi, je dis que c'est un rapport de force. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui, avec toutes les crises qu'elle a les moyens d'imposer au Conseil de sécurité un changement? S'il n'y a pas volonté partout dans le reste du monde, je ne crois pas.
Alors, quel peut être le rôle de la RDC à travers ses dirigeants et ses leaders de la société civile par rapport à l'avenir de l'ONU?
Moi, je pense que chaque pays a un rôle à jouer. La RDC est un grand pays en Afrique. Ses moyens ne sont pas négligeables. Ce qu'il faut, c'est de travailler sur stabiliser son pays, renforcer ses capacités internes, régler les problèmes conflictuels, jouer un rôle positif dans la région. Le président va l'année prochaine être président de l'Union africaine. Il a une opportunité extraordinaire de jouer ce rôle, de montrer que la RDC tourne la page de l'instabilité et du désordre et qu'elle s'inscrit dans une perspective de développement et de stabilité et de jouer un rôle important au niveau du continent. Le continent aujourd'hui, il est traversé par des guerres, il est traversé par des crises. Dans chaque région de l'Afrique, vous avez une mission de maintien de la paix, vous avez des conflits, vous avez des tensions. Donc on ne peut pas revendiquer un rôle au Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies si déjà on est divisé entre nous et si quelqu'un va, moi je ne suis pas content parce que s'il va aller, il va me créer des problèmes chez moi. Donc il faut travailler pour créer des synergies positives, une économie intégrée, des relations apaisées pour pouvoir jouer ce rôle au niveau international. Et la RDC a sa place parce que c'est pas un petit pays, c'est un grand pays, les moyens sont là, c'est un problème de gouvernance et c'est comme ça qu'on peut avancer.
Madame la représentante spéciale, merci.
Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Bonne fête aux Nations Unies, bonne fête à vous tous. Merci.
Le prix Nobel de la paix 2020 a été attribué au programme alimentaire mondial PAM. L'antenne provinciale de PAM Sud Kivu a décidé de célébrer cette distinction le vendredi 16 octobre dernier en présence de plusieurs partenaires de cette agence onusienne. Reportage de Cynthia Bachizi.
Pour les partenaires du PAM présents à cet événement, ce prix Nobel est aussi les leurs. Selon Solange Kassiba, coordinatrice de projet à la 8e CEPAC, accorder ce prix au PAM n'est pas un fait du hasard, car il y a une corrélation entre la faim, la sécurité et la paix.
Quand les gens sont affamés vraiment, on n'a pas la paix. Donc les actions que nous sommes en train de mener, nos partenaires avec le PAM, sont des actions qui ont vraiment un impact sur ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo.
Francis Béret, chef de bureau PAM Sud Kivu et Maniema, a rappelé que ce prix est une adresse à toute la communauté humanitaire évoluant au Congo.
Avec l'obtention de ce prix, nous devons revoir nos manières en fait, de travailler pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire de plus pour le bénéfice des populations qui ont besoin de notre assistance.
Le prix Nobel de la paix a été célébré par le PAM Sud Kivu le 16 octobre, une date hautement symbolique car le monde commémore en ce jour la Journée internationale de l'alimentation. Une double interpellation pour continuer à apporter l'assistance nécessaire aux personnes les plus vulnérables, a souligné le chef du bureau PAM Sud Kivu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
À présent, je vous propose de suivre la question posée à David Gressly, le numéro 2 de la MONUSCO, lors de son séjour mercredi à Beni, ainsi que sa réponse à cette question posée par Marc Marofimbo.
Monsieur David Gressly, vous venez de visiter la prison. Quelles sont vos premières impressions?
C'est vraiment dommage ce qu'on a vu ici. Les administrateurs ici ont donné une description de ce qui s'est passé ici. Je vois que le train est difficile ici. C'est même la route pour venir ici est difficile. Ils ont bien décrit le moyen de cette attaque. Donc c'est évident que c'était très bien organisé, très bien planifié. Donc je crois avec nos partenaires ici, on doit examiner ensemble comment on peut éviter une prochaine évasion comme ça. C'est pas la première fois. Donc vraiment on doit prendre ça au sérieux. C'est vraiment dommage qu'on a eu cette évasion parce que ça va augmenter la criminalité en ville. Donc ça aussi, je crois qu'on doit travailler ensemble pour éviter, mitiguer cette possibilité aussi. Je crois qu'on a du travail à faire ici ensemble. Donc nous sommes très engagés de continuer notre appui ici.
Et quelques dates à retenir pour la semaine qui commence dans le calendrier de l'ONU. 27 octobre, journée mondiale du patrimoine audiovisuel. 28 octobre, journée mondiale du cinéma d'animation. Voilà, c'est par ici que se referme ce magazine préparé, coordonné et réalisé par Honoré Moussenga Kalala avec l'appui de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. Je suis Belinda Bosuma, je vous l'ai présenté avec plaisir. Merci à la technique, merci à vous d'avoir été des nôtres et bon dimanche chez vous.